France Inter.
Bonjour à tous, à la une de ce 13h. Vous venez de l'entendre sur France Inter, François Bayrou, invité de l'émission Questions politiques, le Premier ministre dit non à un retour à la retraite à 62 ans dans le contexte international actuel. Il plaide aussi pour une armée de réserve en plus de l'armée de métier. Il défend sa méthode. Explication de texte dans un instant avec Timur Özturk. Dans ce journal encore, un plan pour en finir avec les violences sexuelles dans les établissements privés sous contrat. Plusieurs mesures annoncées ce matin que, comme mantra notre invité Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique. À la une également, cet incendie dans une boîte de nuit bondée en Macédoine. Il y a 59 morts, une centaine de blessés. Nous reviendrons sur le premier acte de guerre de Donald Trump depuis son arrivée à la Maison Blanche, un bombardement contre les Houthis du Yémen. Le rugby avec le sacre hier soir de l'équipe de France au tournoi Destination. De bon augure à 2 ans de la Coupe du Monde en Australie, nous dira Vincent Pellegrini. Et puis nous verrons comment la chanson de Louane, comment la chanteuse Louane a révélé à la mi-temps de ce match la chanson qu'elle interprétera à l'Eurovision et quelle valeur incarne cette chanson, nous le verrons dans un instant. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin auprès d'une troupe de théâtre dont les comédiens sont tous porteurs de handicap, mais sans jamais en faire état sur scène. Extrait d'une répétition.
Donc il y a des princes, des princesses qui se baladent, mais vous savez pas qui est le prince et la princesse.
Raphaël.
Ouais, Béatrice, c'est pas mal ça. Vas-y, continue.
Enfin, le temps de ce dimanche. Céline Dacosta, le ciel est encore perturbé sur le centre du pays.
Oui, des Pays de la Loire au Grand Est, on reste sous la grisaille avec de faibles averses.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
François Bayrou, donc, invité exceptionnel il y a quelques minutes sur France Inter. Le Premier ministre a expliqué sa méthode de gouvernance. Il dit non au retour de la retraite à 62 ans. On va y revenir. Et concernant les menaces du monde, entre la politique expansionniste de la Russie et la guerre commerciale que nous livre Donald Trump, eh bien, la principale menace vient de l'Est, a dit le Premier ministre.
La plus dangereuse, c'est la folie guerrière russe. Une des plus grandes puissances du monde, la plus grande par la taille, la plus grande par les richesses souterraines, minières, qui se jette, comme d'autres dictateurs l'ont fait au XXe siècle, sur un pays voisin pour l'annexer et chasser ses dirigeants par la force, par les armes, au contraire de tous les engagements internationaux qui ont été pris au travers du temps. Et donc le plus dangereux et le plus responsable, c'est Poutine. L'agresseur, celui qui s'est jeté sur la pauvre Ukraine, c'est Poutine.
On continue à lui parler ou pas ?
Ben, il faut toujours parler, y compris avec ses ennemis, si on veut un jour ou l'autre faire la paix. Mais on n'est pas obligé de passer l'éponge sur les crimes.
Timur Özturk, service politique de France Inter, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Vous avez suivi cette longue interview du Premier ministre à l'instant sur France Inter. François Bayrou a beaucoup défendu sa méthode.
Hein. Oui, malgré l'effort de guerre, annoncé la volonté de faire de nouvelles économies sur le budget, François Bayrou ne veut pas mettre un terme à la conférence sociale au conclave des partenaires sociaux sur les retraites, pourtant critiquée par Édouard Philippe.
J'ai en effet une divergence avec Édouard Philippe. Édouard Philippe considère que la démocratie sociale et les partenaires sociaux, c'est négligeable, qu'il faut le laisser de côté. Je sais que je suis minoritaire quand je dis ça, mais je tiens à défendre cette position.
Pour autant, dans la ligne tracée par le président de la République, le Premier ministre se refuse à toute augmentation des impôts.
Est-ce que la solution est dans l'augmentation des impôts ? C'est une blague.
Reste alors la question des dépenses de l'État, des services publics, des retraites. Il s'oppose à tout retour à l'âge légal à 62 ans et vise un équilibre des comptes pour les retraites du privé à horizon 2030. Il veut prendre l'opinion publique à témoin.
Tous les sondages disent « est-ce que les Français sont prêts à faire des efforts ?» La réponse est invariablement non. Oui. Donc le travail de conviction civique que nous faisons, convaincre les Français, et un jour peut-être de les associer à la décision.
Par un référendum ?
Par exemple.
Pas de date ni de question précise pour cet éventuel référendum, mais François Bayrou le répète, nous ne pouvons pas continuer à léguer un déficit accumulé aux générations futures.
Et concernant l'affaire Betaram, dans le Béarn, ce collège-lycée tristement réputé pour ses violences, sexuelles notamment, imposées par l'encadrement laïque et religieux. Je rappelle que François Bayrou est visé par une plainte pour non-dénonciation de crimes et délits. Eh bien, le Premier ministre évoque évoque ce matin sur France Inter une affaire de déstabilisation et aussi un drame. Et si j'ai une convocation officielle, eh bien j'irai devant la commission d'enquête parlementaire, vient de dire François Bayrou. C'était il y a donc quelques minutes sur France Inter. Merci Timur Öztürk. À la une également, ce plan censé lutter contre les violences sexuelles dans l'enseignement privé, justement. Une série de mesures qu'annonce Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, ce matin dans les colonnes de la Tribune dimanche. Ça passera par plus de contrôle au sein des établissements privés sous contrat. Et ça fait écho, évidemment, donc à cette vaste affaire du collège-lycée Notre-Dame de Bétaram. Bonjour Philippe Delorme.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique. La ministre Elisabeth Borne veut mieux recueillir la parole des élèves. Plus de 2 millions d'adolescents sont concernés dans 7200 établissements privés en France. Comment fait-on pour mieux recueillir leurs paroles ?
Alors, permettez-moi d'abord de dire que le plan présenté par Elisabeth Borne, j'ai eu l'occasion de rencontrer Elisabeth Borne et son cabinet, donc c'est pas une surprise, et qu'on n'a pas attendu ces mesures pour mettre en place des dispositifs à travers notre plan de protection de la République fragile depuis 2018, qui prévoit justement la prise en compte de la parole des élèves. Pour cela, et pour répondre à votre question, il faut effectivement créer un climat de confiance, un climat propice à la libération de la parole, et donc tous les acteurs de l'enseignement catholique sont formés pour cela, et donc c'est pas forcément un seul adulte de référence, mais je dirais que tous les adultes de l'établissement et les parents doivent être associés à cette démarche pour que l'enfant puisse parler, être écouté et être cru surtout, parce que c'était souvent le drame de ces affaires-là.
Elisabeth Borne veut aussi renforcer les contrôles dans l'enseignement privé sous contrat, plus de visites sur le terrain, plus d'inspecteurs aussi. Ces contrôles étaient jusque-là trop peu nombreux à vos yeux aussi ?
Ça a été signalé par la Cour des comptes en 2023. Hein, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de contrôle. Ça ne veut pas dire pour autant, parce qu'on a l'impression, dans tout ce qui est dit, que l'enseignement catholique d'aujourd'hui serait le Bétaram d'hier. Ce qui est évidemment pas le cas, et je dirais en plus que ça ne concerne pas que l'enseignement privé, ça concerne tout le monde éducatif,
évidemment.
Et pas que le monde éducatif. Et quand la ministre dit qu'il y a peu de remontées au ministère, moi je m'étonne, parce que si vous voulez, on a mis des procédures très claires en place depuis 2018, et donc les chefs d'établissement font des signalements au procureur au titre de l'article 40 ou à la CRIP, et lorsque signalements sont faits, ils sont aussi, le rectorat en est informé. Donc je pense que là, il y a peut-être des remontées entre rectorat et ministère qui se font pas, mais pour nous, évidemment, on travaille depuis des années, depuis 2018, pour que nos établissements soient des maisons sûres et que la bientraitance éducative soit la règle.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage. Je rappelle qu'au regard des faits qui sont relatés à Notre-Dame de Bétaram, Elisabeth Borne dit qu'elle prendra les mesures qui s'imposent en fonction des conclusions de l'inspection concernant un éventuel retrait de l'agrément de l'établissement. Merci beaucoup, Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
À la une également, cet incendie, le feu qui a pris cette nuit en Macédoine dans une discothèque bondée. Il y a 59 morts, plus de 100 blessés, Joël Bronner.
Il était environ 3h du matin lorsque le feu a démarré dans la discothèque Le Club Pulse, dans la ville de Kochani, qui compte environ 30 000 habitants et qui se situe à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale Skopje. Un concert de hip-hop, démarré à minuit, était alors en cours. Les médias locaux évoquent l'hypothèse que l'incendie a pu être déclenché par des dispositifs pyrotechniques utilisés dans le cadre de ce concert. Une hypothèse corroborée par les images qui circulent en ligne, des images filmées par des participants à ce concert nocturne. On y voit une foule de jeunes, à l'intérieur de la discothèque, les yeux rivés en l'air, vers des flammes en train de brûler sous le plafond de la boîte de nuit, à proximité du système d'éclairage. Ces flammes semblent donc s'étendre tout le long d'un système technique sur plusieurs mètres, ce qui souligne l'importance rapidement prise par cet incendie. Sur d'autres images, ce sont des extincteurs qui sont en action pour tâcher de maîtriser ces flammes, sans pouvoir cependant éviter un bilan humain très lourd à l'issue de ce qui devait être une simple soirée festive en discothèque dans l'est de la Macédoine du Nord. À Athènes, Joël Bronner, RFI pour France Inter.
Et selon le ministre de l'Intérieur macédonien, des mandats d'arrêt ont été émis contre 4 personnes après cet incendie en Macédoine du Nord. Des nouvelles peu rassurantes du pape dans un message écrit diffusé il y a un peu plus d'une heure. François se dit affaibli physiquement et confronté à une épreuve. Voilà le premier acte de guerre déclenché par Donald Trump depuis son entrée en fonction il y a 2 mois. Et c'est le Yémen qui en a fait les frais cette nuit. Des frappes américaines ont visé plusieurs bastions des Houthis, y compris dans la capitale Sanaa. Il y a au moins 31 morts. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Rédaction internationale de Radio France. Avant cette frappe américaine, les Houthis du Yémen avaient menacé de s'en prendre à nouveau au commerce maritime international et aussi à Israël.
Oui, précisément, menacés de reprendre leurs attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden contre les navires liés à Israël. Des attaques qu'ils avaient suspendues avec la trêve fragile à Gaza, mais qu'ils ont donc décidé de reprendre en représailles à la décision d'Israël de bloquer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, ce qui a des répercussions sur l'économie mondiale puisque cette zone est une des principales routes commerciales maritimes au monde. Les bombardements américains hier ont principalement visé la capitale, Sanaa, mais aussi Rada au centre et puis la province de Saada au nord. Au moins 31 morts, une centaine de blessés, donc selon les Houthis, qui disent aujourd'hui être prêts, je cite, à répondre à l'escalade par l'escalade. À travers les Houthis, ces bombardements sont un message de Donald Trump à l'Iran. Ne menacez pas le peuple américain, ne menacez pas le président américain ou les routes mondiales, a-t-il lancé. Si vous le faites, l'Amérique ne vous fera pas de cadeau. Les Houthis sont considérés comme un des piliers de l'axe de la résistance, cette galaxie de pouvoir et de mouvements armés que Téhéran soutient, finance ou arme à travers tout le Proche-Orient, un axe très affaibli par les coups portés au Hezbollah libanais, au Hamas et la chute de Bachar el-Assad.
Claude Guibal, l'administration Trump a mis en congé il y a quelques heures tout le personnel des radios Voice of America, Radio Free Asia, Free Europe également, Europe, et d'autres médias financés par des fonds américains. Les personnels ont été prévenus par mail qu'ils devaient rendre leur carte de presse, leur téléphone professionnel et aussi l'accès au bureau qui est désormais interdit. Le 15 de France s'est fait un peu peur en fin de première mi-temps hier soir, mais au final ce fut un sacre, une victoire 35-16 qui leur a permis de lever le trophée du tournoi Destination. On a largement commenté cette victoire dans la matinale. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Eric.
Vous avez vécu, vous avez commenté même cette finale hier soir en direct au Stade de France. D'ailleurs, j'espère que vous aviez une bonne doudoune parce qu'il faisait un peu froid. Au final, c'est donc un tournoi Destination porteur d'avenir pour les Bleus à 2 ans de la Coupe du Monde en Australie.
Oui, on peut considérer comme fondatrice cette victoire dans le tournoi pour ce groupe à qui l'on reprochait son manque de trophées. Dans cette édition, les Bleus ont été impressionnants dans le domaine offensif. 30 essais inscrits en 5 matchs, record du tournoi, avec en fer de lance la fusée. Louis Bielle-Biarré, 8 essais au compteur. Défensivement, ce 15 de France a livré des séquences mémorables, notamment lors du match en Irlande. Ce succès à Dublin face au double tenant du titre restera comme le point d'orgue de ce tournoi pour les hommes de Fabien Galthié, un sélectionneur qui a le privilège de pouvoir s'appuyer sur une très belle génération de joueurs et sur la richesse du réservoir français. Les absences sont surmontées, on l'a vu. Après la blessure d'Antoine Dupont, cette richesse permet aussi de la mise en concurrence et de l'émulation. De quoi envisager l'avenir avec optimisme.
Vincent Pellegrini. Et puis durant la mi-temps de ce tournoi Destination hier soir au Stade de France, un peu sur le mode du Super Bowl américain, la chanteuse Louane est venue interpréter sur une plateforme à 12 mètres du sol le titre qu'elle défendra à l'Eurovision en mai prochain.
Je vais mieux, je sais où je vais.
La chanson de Louane s'appelle « Maman » en hommage à sa mère décédée. « Maman », un thème qui incarne bien les valeurs de l'Eurovision, explique Thomas Duzeau. Il est producteur de podcasts sur l'Eurovision. Il est aussi l'auteur du livre « Eurovision, petite histoire du grand concours ».
Louane arrive avec une ballade puissante qu'elle porte merveilleusement bien puisqu'elle l'incarne. Et ça, incarner une chanson, c'est clé. C'est un choix en tout cas qui fait plaisir puisqu'on parle de l'amour différemment, enfin à l'Eurovision, du moins pour la France. Dans les paroles, elle s'adresse à sa mère qui l'a quittée très jeune et elle lui dit « Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien, je suis enfin bien dans ma vie ». Et ça, c'est un message que tout le monde a envie, je pense, d'adresser à ses parents. Et puis, elle fait écho aussi à son nouveau rôle de mère, elle. Maintenant, c'est elle qui endosse le rôle et du coup, c'est vraiment un message universel qui parle à beaucoup et j'espère au-delà de la francophonie.
Propos recueillis par Béatrice Duguay. Et ce qui a le plus impressionné Louane hier soir, eh bien, ce n'était pas d'être perché à 12 mètres du sol, a-t-elle dit, mais de chanter devant 80 000 personnes. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le football, avec le match qui est systématiquement le plus attendu de la saison en Ligue 1 ce soir. Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille vont se retrouver au Parc des Princes. Sachez que ce match sera retransmis dans 6 salles de cinéma. 6 salles pâtées déjà complètes. Ce n'est pas la première fois que le cinéma mise sur le football, mais ce sera ce soir la première diffusion d'un match en IMAX. Écran plus grand, meilleure qualité du son et de l'image, Estelle Romer.
Les spectateurs ne seront pas dans le stade, mais ce sera tout comme grâce aux technologies IMAX, promet Julien Tranchant, responsable communication.
Il y a beaucoup, beaucoup plus d'endroits qui diffusent le son dans la salle. Il y a cette impression d'entendre tout ce qui se passe à l'écran, comme si on était un peu au milieu. Et puis, la taille de l'écran fait que cette possibilité de se projeter qui est encore plus forte.
Depuis quelques années, il y a une forte demande pour ce genre d'expérience immersive.
On a pu faire des concerts, il y a eu des matchs de NBA, on va dire après la reprise en sortie de Covid. On a vu qu'il y avait en fait une demande des gens d'aller faire des événements où on peut vivre un peu plus collectivement certaines émotions.
Pour le cinéma, c'est aussi une manière de se différencier dans l'industrie du divertissement de plus en plus concurrentielle, explique Romain Paris, chercheur en économie d'industrie créative.
Les industries culturelles ont pris l'habitude d'aller sur différents types de formats avec une forme de segmentation par les prix en fait. Le même produit qui est le match de foot, vous allez le payer très très cher en étant dans le stade, pas très très cher en allant dans un bar. Et là, on a essayé d'adresser aussi un public intermédiaire.
Là, les 2500 places ont été vendues en moins de 24 heures. Côté public, il promet d'être assez mélangé entre familles et supporters.
PSG OM, ce soir au Parc des Princes à partir de 20h45. À suivre, les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Second épisode à Laval avec les comédiens, tous porteurs de handicap, mais ils n'en font jamais état sur scène. Le réalisateur et comédien Artus est devenu leur parrain. La troupe s'appelle Reflet de scène. Et pas question, Sandrine, de placer le handicap au cœur du spectacle.
Est-ce que tout le monde est là ?
Ouais !
Bonjour.
Sandrine.
Yannick, le metteur en scène. Bonjour Aurélien. Ça va ?
Oui. C'est une première fois pour vous ?
Première fois.
Tu vas découvrir le groupe, tu vois, il y en a déjà pas mal qui sont arrivés.
À peine le temps de se défaire, c'est déjà parti.
Béatrice ! Allez hop !
Béatrice, vous vous êtes levée d'un coup. Là,
parce que... Ouais, j'aime ça et c'est la première fois que je fais du théâtre devant tout le monde. Et ça donne joyeux.
C'est par là que ça se passe !
Bon allez, je vous laisse commencer.
Merci.
Vous avancez tranquillou. Pour l'instant, on va faire de l'improvisation.
Debout, face à la scène, Louis-Marie Savy, à l'origine de la petite compagnie.
Ma petite sœur a une anomalie chromosomique et maman était metteuse en scène. Et donc du coup, c'est tout naturellement que j'ai proposé à la Jeune Chambre économique de créer une troupe de théâtre avec un petit truc en plus.
C'est quoi ce petit truc en plus ?
En fait, on refuse de dire ce qu'ont les personnes en fait membres de cette troupe, de donner des étiquettes. Notre truc, c'est vraiment de présenter un spectacle sincère, avec un jeu de comédiens sincères qui jouent sincèrement au théâtre.
Et du vrai théâtre, insiste notre metteur en scène, il a juste adapté quelques scénettes.
Parce que certains avaient des problèmes d'élocution, donc tout simplement, on a fait en sorte que le texte puisse sortir correctement. D'autres avaient des difficultés de déplacement, on mettait des chaises.
Et pour le reste, comédiens, tout court.
Exactement. Je les regarde pas par le prisme de leur handicap.
Vous êtes à la cour. Donc il y a des princes, des princesses qui se baladent, mais vous savez pas qui est le prince et la princesse.
Princesse.
Ouais, Béatrice, c'est pas mal ça. Vas-y, continue.
Tu es belle.
Excellent. Tout dans le glisser des hanchés. Parfait. Nickel.
Est-ce qu'il vous bluffe ?
Tout le temps. Tout le temps. Je suis touché en fait quand je le dis parce que on se rend pas compte. Il y en a certains dont je connais les pathologies ou des choses comme ça parce qu'ils ont pu me le dire. Et quand je sais ce qu'ils ont et quand je les vois faire, je me dis mais c'est extraordinaire. Des gens qui par exemple ont vraiment des difficultés à rentrer en communication avec les autres et là se retrouvent tout d'un coup seuls sur scène devant des fois plus de 200 personnes.
Ils ignorent toute cette partie d'eux-mêmes qui est capable de...
Oh oui. Oh oui.
Béatrice, par exemple, croisée en début de séance, a totalement lâché prise.
Au début, j'avais peur. Je voulais pas y aller sur la scène. J'avais peur de pas y arriver.
Pourquoi cette peur ?
Parce que j'arrivais pas à retenir les phrases. Pour moi, c'était dur.
Ça va mieux maintenant ?
Maintenant, ouais, ça va mieux. J'ai plus peur. Voilà.
Je suis capmousse.
Voilà. Ouais.
Voilà, le petit truc en plus dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Des averses et encore un peu de neige cet après-midi.
Oui, la neige, on la retrouve surtout sur les reliefs des 600 mètres. Pour les autres, du Poitou-Charentes jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par la région centre, là, ça sera de la pluie. On est plus sur de faibles averses. Et de part et d'autre de cette bande pluvieuse, là, ça sera plus calme. Avec de la Bretagne aux frontières du Nord, une alternance de nuages et d'éclaircies. Éclaircies même parfois généreuses. Idem plus au sud, avec un petit peu plus de nuages sur le sud-ouest, sur les Pyrénées notamment, où là, le ciel sera même bien couvert. Un petit peu plus de soleil sur le pourtour méditerranéen et pour la Corse. Là, ça va rester pluvieux sur l'ouest de l'île avec un vent fort sur la pointe nord où les rafales peuvent souffler jusqu'à 100 km à l'heure.
Et les températures remontent un peu.
Oui, on gagne quelques degrés par rapport à hier, mais on reste sous les normales encore avec 5 à 11 degrés pour le nord et le centre du pays. Un petit peu plus au sud, hein, 10 à 15 degrés. Des températures qui vont repartir à la hausse. Les après-midi, en tout cas à partir de mardi, pour vous donner une idée, jeudi, on aura une moyenne de 18 degrés sur l'ensemble du pays.
Et c'est Céline Dacosta.